franceinter.fr.
Allô, l'électricité ?
Oui, monsieur.
J'ai pas de courant, dites.
Eh bien, écoutez, je vais me renseigner auprès des services électriques, si on peut vous rétablir très vite.
Et c'est pas rétablir qu'il faudrait, c'est s'occuper de faire poser tout, hein. Pour l'instant, on marche au pétrole, ça fait des années et des années, hein.
Ah, mais attendez, est-ce que vous avez fait la demande?
Et quelle demande?
CO2, mon amour. Denis Chessou.
Eh oui, ça marche pas toujours comme on veut. Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine de nature et d'environnement qui prend le temps de ne pas aller trop vite avec Sophie Moreno et Alain Duclos aujourd'hui à la technique et assisté de Stéphane Combes, c'est Christophe Imbert qui réalise l'émission. Allez, on va rêver, on va prendre un petit peu de hauteur. C'est ce que proposent les Suisses Bertrand Piccard et André Boschberg à travers le rêve de leur avion solaire nommé Solar Impulse. Vous en avez bien sûr entendu parler. 200 mètres carrés de cellules photovoltaïques réparties sur les ailes et l'arrière de l'appareil qui alimentent 4 moteurs de seulement 10 chevaux chacun. Bon, des chevaux ailés, on s'en doute bien. Et durant donc sa phase de vol au soleil, eh bien, l'avion recharge ses batteries et peut continuer à voler la nuit. « Je vais voler pour faire le plein », aime à dire André Boschberg. Et oui, avec son poids plume de 1600 kg, Solar Impulse amène l'humanité ébahie à regarder le spectacle de cet avion évoluant en silence, sans rejet polluant, et rappelle la période, en fait finalement pas si lointaine, des premiers pionniers de l'aviation. Alors après avoir effectué divers trajets tout à fait significatifs, notamment en ralliant le Maroc depuis la Suisse, les deux pilotes s'attaquent à la traversée des États-Unis d'ouest en est. Le premier tronçon, San Francisco-Phoenix, vient d'être accompli. 4 autres étapes seront nécessaires jusqu'à New York et bien d'autres encore, on s'en doute, avant de voir le premier transport de passagers par un avion solaire. Alors certes, nos deux compères ont la tête dans les nuages, heureusement. Mais avouez que ça nous fait quand même un bien fou. Et si les énergies renouvelables, à bien y réfléchir, ça n'était pas du vent. Énergie renouvelable justement, oh le bel astre situé à 150 millions de notre Terre. Et oui, né parmi les 200 autres milliards d'étoiles dans la Voie lactée, voici notre ami le Soleil. Donc ami de la bronzette et du teint allé, un peu de lumière dans votre transistor cet après-midi, avec ce Soleil qui va réchauffer nos propos. Bon, on va être un peu modeste hein, parce que on va dire que vous apportez le Soleil et la chaleur en cette fin d'automne, c'est un peu mission impossible. Aussi, vous apporterai-je au moins les panneaux photovoltaïques pour transformer sa lumière en énergie. On va pas développer toutes les dimensions du soleil en 40 minutes, mais quand même quelques aspects. Et puis j'ai envie de débuter donc par un scientifique qui s'appelle Daniel Linco, qui est le directeur de l'IRDEP. Qu'est-ce que l'IRDEP ? C'est l'Institut de Recherche et Développement sur l'Énergie Photovoltaïque. Alors c'est intéressant parce que c'est ce qu'on appelle un laboratoire mixte, CNRS, Chimie Paritech, EDF, qui sont les organismes fondateurs. Donc tout ce petit monde-là donc, travaille sur le solaire. Et rappelez-nous, s'il vous plaît, donc Daniel Linco, quels sont d'abord, on va dire, les fondamentaux, on a besoin de se rappeler tout ça, du solaire.
Le soleil, c'est une incroyable source d'énergie. Hein. Le soleil, aujourd'hui, nous envoie une énergie qui est considérable, qui est à peu près 6000 fois l'énergie consommée mondialement chaque année par l'humanité. Donc, en fait, c'est une source qui, à l'échelle humaine, est une source renouvelable et extrêmement importante et accessible partout, en tout lieu, avec des variations. Mais disons que, par exemple, si on prend aujourd'hui en France, hein, le soleil nous envoie chaque année environ 1,3 mégawattheure par mètre carré et par an. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un mégawattheure ? Alors, si on convertit ça en énergie dans laquelle on a le plus d'habitude, c'est-à-dire on va comparer ça à du pétrole, il faut savoir qu'une tonne équivalent pétrole, c'est 11,6 mégawattheure. Et ce qu'il faut donc avoir dans l'esprit, c'est que aujourd'hui, chaque mètre carré de sol en Île-de-France, alors c'est un peu plus dans le sud, un peu moins dans le nord, mais pas dans des variations très importantes, correspond à un baril de pétrole.
Alors, ce que vous nous dites, c'est qu'en fait, c'est le plus court chemin du photon donc, à l'électricité, hein, cette énergie solaire. Évidemment, après, il faut savoir la capter et la transformer.
Exactement. Ce qui se passe, c'est que jusqu'à il y a très peu de temps, en fait, on ne pouvait disposer de l'énergie solaire que via des intermédiaires. C'est-à-dire que on avait l'énergie solaire, avec la photosynthèse, était capable de créer des plantes qui elles-mêmes pouvaient donner de la biomasse, qui ensuite donnait
du pétrole,
du charbon, etc. Ce qu'on appelle toutes les énergies fossiles accumulées.
Le pétrole, le charbon, ce n'est jamais qu'un concentré du soleil.
Et c'est en fait une énergie dérivée de l'énergie solaire, de l'énergie lumineuse au départ. Le soleil, c'est de l'énergie apportée par des photons. Et donc, en fait, on avait... Alors, le soleil peut donner aussi de la chaleur. Et quand il donne de la chaleur, que va-t-il donner ? Il va donner du vent. Donc, on voit que le vent est une énergie solaire dérivée. De la même façon, les courants marins qui sont provoqués par des changements de température à différents endroits des mers ou des océans sont aussi une énergie solaire dérivée. De la même façon, le soleil va faire évaporer l'eau. Donc, il va transférer de l'énergie de ses photons en énergie, cette fois-ci, pour l'évaporation. Cette eau va monter à une certaine hauteur et retomber, ça va nous donner l'énergie hydraulique. Donc, on constate qu'en fait, toutes les énergies classiques que l'humanité a utilisées depuis la nuit des temps sont des énergies, la plupart sont d'origine solaire. La beauté du photovoltaïque, qu'on appelle l'énergie photovoltaïque, c'est qu'en fait, on convertit directement l'énergie photonique lumineuse, électromagnétique on dirait, en énergie électrique.
Au Cap Canaveral, l'armée de terre américaine et le monde attendent le moment décisif. La fusée Jupiter, portant à son sommet le satellite artificiel baptisé Explorateur, est prête pour le grand départ. Opération Explorateur réussie.
Alors Daniel Linco, tout ceci part en fait de la conquête spatiale. On est en 1954. Le solaire et le spatial sont extrêmement liés.
Ah oui, alors, les premiers, vous savez, Spoutnik, c'est des années 50. Et en 54, au début, les premiers satellites, on ne savait pas comment les faire durer en haut parce qu'on ne savait pas comment les énergiser, comment leur donner l'énergie. Et les chercheurs de la Bell Telephone, quand ils ont vu qu'ils étaient capables de produire de l'électricité avec des cellules solaires au silicium, ils ont mis le paquet et en 1958... Le photovoltaïque était déjà utilisé et c'est grâce d'une certaine mesure au photovoltaïque qu'on a pu mener aussi loin et de cette façon la conquête spatiale.
C'est l'objet de votre recherche. Parlons maintenant donc de ce fameux silicium. Alors, c'est le deuxième élément, on va dire, de la croûte terrestre, hein, le premier étant donc l'oxygène. Comment on le travaille ?
Alors en fait, le silicium, c'est justement ce matériau qui sert pour l'électronique aujourd'hui, qui est un des plus grands semi-conducteurs dont on dispose. Et en fait, le silicium se présente sur Terre sous forme d'oxyde de silicium. Alors quand je vous dis oxyde de silicium...
Alors nous, on pense quartz, on pense
c'est
sable.
C'est du quartz, c'est du sable, oui. Etc. Donc en fait, pour faire du silicium, on part soit de quartz de très bonne qualité ou de sable de très bonne qualité. Et ensuite, on lui enlève son oxygène. Et ça va nous donner du silicium, qu'on appelle du silicium métallurgique, qui sert pour de nombreuses applications et qui est produit en des millions de tonnes.
Alors aujourd'hui, ce fameux silicium, il faut l'imaginer un peu comme une plaquette de beurre, enfin peut-être un peu plus solide, et puis on le découpe, en plaquettes.
Et ensuite, on va faire des lingots qui peuvent peser aujourd'hui jusqu'à une tonne.
Alors on va le découper en plaquettes, mais l'idée de demain et déjà d'aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les couches minces. C'est-à-dire d'imaginer qu'au lieu d'avoir ces plaquettes, on va avoir comme une sorte de peinture.
Oui, alors effectivement, vous avez aujourd'hui, je vous parle du silicium parce que c'est aujourd'hui la technologie qui est majoritaire, qui est autour de les panneaux bleus que vous
90%,
voyez, à peu près 90%. Mais la recherche dans le domaine du photovoltaïque est extrêmement active. Et l'idée du photovoltaïque, c'est quelque part d'essayer d'avoir la production d'énergie, donc d'électricité photovoltaïque, le moins cher possible. Donc les recherches portent sur les matériaux, elles portent sur les procédés, et à côté du silicium se développent aujourd'hui des technologies dites couches minces. C'est-à-dire qu'on va imaginer qu'un revêtement, comme l'équivalent, ce que les gens connaissent, des peintures, au lieu d'être fait pour simplement protéger pour la couleur, donne aussi de l'électricité. Et c'est ça le challenge pour les couches minces, c'est en fait de faire des cellules solaires qui puissent être déposées sur des centaines, voire des milliers de kilomètres carrés.
Ça veut dire sur des routes, sur des trottoirs, sur des façades éventuellement ?
Alors avant d'arriver à cette situation-là, il y a quand même un travail,
oui.
voyez, c'est-à-dire que même si on pense qu'on améliorera, et c'est ce qui se passe, regardez, l'automobile, elle a démarré avec la voiture de Cugnot. Enfin, vous voyez,
c'est
et donc, en fait, il faut voir le photovoltaïque, l'énergie photovoltaïque, non pas en se disant « je ne démarrerai l'industrie automobile que quand j'aurai la direction assistée, l'injection électronique ». Et donc, on est dans le même mécanisme avec le photovoltaïque, c'est-à-dire qu'en fait, on a une technologie qui est exceptionnelle aujourd'hui, qui est la technologie silicium, qui bénéficie de nombreuses avancées en microélectronique, etc. C'est une technologie extrêmement fiable et aujourd'hui, les coûts sont très faibles, ce qui n'empêche pas que cette technologie elle-même évolue et qu'à côté, d'autres technologies évoluent. Vous parliez des couches minces. Eh bien, aujourd'hui, on commence l'émergence industrielle de ces couches minces. Et demain, des gens commencent à rêver de se dire « mais on pourrait faire du photovoltaïque plastique avec ce qu'on appelle le photovoltaïque organique. Les polymères, les plastiques, c'est ce qu'on appelle les matériaux organiques. Et l'idée, ce sont des matériaux qui, par essence, sont également très abondants. Pas cher, etc. Donc l'idée, c'est de développer des plastiques qui soient capables de donner de l'électricité. Alors on a un bel exemple de ce passage réussi du monde inorganique au monde organique, c'est celui de ce qu'on appelle les OLED, les écrans organiques. Personne n'aurait parié un franc ou un euro sur ces technologies au début de ces technologies. C'est ça qui est extraordinaire, c'est de voir que la recherche a son rythme et peu à peu résout, ouvre de nouvelles voies, etc. Et en fait, il y a une créativité de la recherche qui fait qu'en permanence, finalement, les technologies existantes, on les améliore, on essaye de les pousser dans leur retranchement et les améliorer à point de vue, et on essaye de faire émerger de nouvelles technologies.
Nous sommes au cœur de l'innovation, on l'a bien compris avec Daniel Lienko, qu'on va retrouver tout à l'heure. On vous emmènera aussi en Allemagne, on vous emmènera dans les pays pauvres, parce que là aussi l'électricité, c'est quand même extrêmement important, surtout quand on n'en a pas. Et puis aussi, qu'est-ce que le particulier, chacun d'entre nous, peut attendre de panneaux photovoltaïques, parce que c'était quand même une politique extrêmement brouillonne qui s'est passée depuis quelques années. Donc on y reviendra aussi tout à l'heure avec André Joffre. Et puis je vais vous emmener, juste après cette chanson, dans une serre. On sera pas loin de Perpignan, le mariage entre l'agriculture et le photovoltaïque. Grab your coat and get your hat. Leave your worries on the doorstep. Just direct your feet to the sunny side of the street. Now can't you hear that pitter-pat? And that happy tune is your step. Life can be so sweet on the sunny side of the street. I used to walk in the shade with those blues on parade. I'm not afraid, this rover has crossed over. Now if I never had a cent, I'd be rich as Rockefeller. Gold dust at my feet on the sunny, sunny side of the street. I used to walk in the shade with those blues on parade. But I'm not afraid that this rover has crossed over. If I never had a cent, I'd be rich as Rockefeller. And that's what he is, gold dust at my feet on the sunny, stay on the sunny. It's real crazy on the sunny side of the street.
Hey.
Et que croyez-vous, que les disques sont choisis au hasard par Jean-Baptiste Audibert? Bah, pas du tout. Dina Washington, Sunny Side of the Street, le côté ensoleillé de la rue, pour parler dans C'est haut de mon amour aujourd'hui sur France Inter, donc de ce solaire. Et je vous ai parlé de quoi? Eh bien, je vous ai parlé d'une serre. Oui, alors une serre, vous savez ce que c'est. Bon, les fêtes de serre, j'en parle même pas dans notre émission. Nous allons rencontrer en fait Francis Villa, qui se trouve à Corneillas del Vercol. C'est-à-dire qu'on n'est pas loin de Perpignan. À signaler d'ailleurs aussi que le marché international de fruits et légumes de Perpignan, eh bien, est recouvert de panneaux photovoltaïques déjà depuis pas mal de temps. Et là, on entend... qu'est-ce qu'on entend? Parce qu'on est dans un pays de tramontane. Et la tramontane, eh bien, elle régule, je veux dire, les ardeurs des hommes. Et c'est pour ça que nous entrons dans cette serre et que nous avons une musique. Ah, ce que l'on entend, on pourrait presque penser que ce sont des chants, alors qu'en fait, c'est du vent qui passe.
C'est du vent. C'est du vent. C'est lorsque le vent souffle, il y a toujours aux parois une petite
ondulation, on va dire.
Du vent.
Et alors là, on est donc chez vous. On est dans une serre qui est absolument immense. On n'est pas très loin du Canigou. On est dans les Pyrénées-Orientales. Alors déjà, dépeignez-nous donc cette serre. Il y en a plusieurs ici.
Oui, c'est une serre. Il y a deux serres de 25 000 mètres carrés. Là, elle est en bio. Elle est en reconversion bio. Et donc, on a produit déjà toute une année l'an passé. Oui. Donc, on avait encore, il en reste un peu, vous voyez, des poivrons. On avait des aubergines, des concombres, des courgettes, des haricots, de la tomate. Et puis, au fond, on a planté des arbres, des kiwis.
Ce qui est intéressant, c'est donc le mariage entre une technologie solaire et donc cette serre. Parce qu'en fait, le toit est recouvert de panneaux solaires, racontez-nous.
Oui, le solaire nous permet d'avoir un outil qui est presque mis à disposition gratuite à l'agriculteur, puisque c'est le solaire qui investit la serre, qui investit l'arrosage, qui investit tout, et l'agriculteur n'a qu'à travailler et produire. Grâce à ça, on devient compétitif.
Alors, ça veut dire que cette électricité, donc, vous la vendez à EDF?
Voilà, et avec ça, ça nous permet d'amortir la serre, de payer la serre, l'électricité, l'arrosage, tout l'investissement. Et l'agriculteur, il a la serre pratiquement gratuite.
Donc on a ces panneaux orientés au sud, ceux qui sont orientés au nord, donc laissent passer la lumière.
Voilà.
Et donc tout va bien, quoi. Ça s'équilibre.
Oui, ça s'équilibre. Et l'été, on a à peu près 1000 joules centimètre carré, deux fois plus qu'une serre normale en plein hiver. Et les cultures poussent bien, même on en a un peu trop.
Alors parlons aussi, Francis Villa, des tomates, parce que c'est un homme tout à fait respectueux de l'environnement. J'ai vu des chiffres assez fous, quoi. C'est-à-dire que lorsqu'on va au Maroc, je crois qu'il y a 50 passages en gros de pesticides. Quand on va en Espagne, c'est une vingtaine.
Plus, en Espagne, c'est comme le Maroc.
C'est comme pareil.
Pareil, bon, parce qu'ils ne peuvent pas contrôler l'hygrométrie, ils ne chauffent pas. Donc quand on ne chauffe pas, on ne maintient pas un climat sec et on doit traiter à cause de ça. Et ici, dans ces serres, on n'a fait aucun traitement.
Ah oui.
Voilà.
Francis Villa, vous êtes évidemment tout à fait inquiet de voir la disparition des maraîchers. Alors donc, il y a différentes causes, et puis aussi autre cause, celle des salaires.
Le maraîchage, on est concurrencé par l'Espagne. D'abord, numéro un, on a perdu beaucoup d'exploitants par l'Espagne. Maintenant, on sera concurrencé par le Maroc. On ne peut pas comparer. Nous, le salaire horaire d'un ouvrier nous coûte autour de 11 à 12 euros. Au Maroc, c'est 5 euros par jour. Voilà, donc on ne peut pas comparer. Et après, des produits comme nous on fait, qu'on traite moins, qu'on respecte plus l'environnement, ça coûte plus cher. Voilà, donc la concurrence, on ne peut pas lutter.
Et c'est là que le panneau solaire vient compenser, on va dire, un peu ça. Quoi.
Pour certains produits, on arrive à être compétitif.
Alors un homme qui connaît bien cette affaire et que l'on retrouvera aussi en fin d'émission, c'est André Joffre qui participait à ce reportage, qui est le président du pôle de compétitivité d'Herbi, donc là aussi innovation. Hein, donc on se doute bien que c'est à la fois le monde industriel, le monde de la recherche et aussi le monde universitaire qui travaillent ensemble. Ben voilà, on est dans la serre, toujours de Francis Villa, Corneillas del Vercol, avec André Joffre.
Ici, on voit bien que ce sont des agriculteurs entreprenants qui imaginent un peu le futur. Et donc, bon, ces serres-là, il faut qu'elles soient rénovées. Tous les 30 ans, à peu près, il faut refaire des serres. Ici, il y avait des serres avant qui étaient obsolètes. Et donc, il a fallu les reconstruire. Et effectivement, grâce au solaire, ça permet d'amortir l'investissement et donc de permettre en fait, à la culture de produits bio, en l'occurrence ici, d'être économiquement rentable, alors qu'elle ne le serait pas si on avait dû construire une serre ex nihilo à partir de rien, quoi.
C'est-à-dire que d'un côté, on a semé des graines de poivrons, d'aubergines, de tomates, puis on a aussi semé des graines de panneaux solaires, et les deux se marient bien, quoi.
Voilà, tout à fait. En fait, c'est cette rencontre, en fait, des énergies renouvelables, de façon générale, et de l'agriculture, qui donne un enfant qui est un bel enfant, finalement, ouais. Qui arrive à progresser. On pourrait dire la même chose de la méthanisation, et également de l'élevage, etc. Il y a plein de secteurs comme ça, dans lesquels on voit que ce mélange, en fait, des genres est tout à fait opportun. Donc, il faut essayer de chercher, justement, les niches dans lesquelles on peut développer ce genre de choses.
André Joffre, on voit aussi une gestion maximale de l'eau qui est récupérée.
Oui, disons que dans une serre, déjà, on consomme moins d'eau qu'en plein champ. La consommation d'eau est d'à peu près le tiers de ce que l'on consommerait pour des cultures en plein champ. Et ici, en fait, dans cette serre, comme elle est toute nouvelle, nous avons décidé de récupérer l'eau de pluie. Ce qui permet d'avoir un stock d'eau douce, en fait, et non calcaire. Et en fait, on va utiliser cette eau. On est en train de travailler avec une start-up de Toulouse, là, qui a développé des brevets là-dessus. On va asperger, en fait, pendant les périodes les plus chaudes d'été, cette eau sur les panneaux solaires pour faire chuter la température et gagner encore en rendement. Puisque vous savez qu'une cellule solaire, plus elle monte en température, moins son rendement est élevé. Donc, grâce à cette aspersion d'eau qui va dépendre de la température, mais aussi de l'hygrométrie, de différents facteurs climatiques, on va permettre de réduire la température des panneaux et de gagner encore un rendement.
Alors là, André Joffre, nous sommes devant le panneau qui nous indique la puissance instantanée.
Voilà, donc là, nous sommes à peu près un demi-mégawatt, c'est 197 kilowatts exactement. Ouais. Donc il est 10h du matin, le soleil n'est pas encore très important. Et depuis le début du mois, donc, nous avons produit 110 000 kWh. Et donc, voilà, c'est une installation qui fonctionne bien, qui dépasse d'ailleurs ses objectifs. Et à Perpignan, on a fait une analyse sur une trentaine d'années. Et on s'est rendu compte qu'en fait, on avait gagné pratiquement 10% d'ensoleillement en 30 ans.
En fait, c'est toujours dingue de se dire, voilà, ça nous tombe du ciel, profitons-en. Quoi.
C'est... Voilà, alors tout le problème, c'est que les équipements pour collecter cette énergie étaient jusqu'à maintenant très chers. Et donc était réservé à des usages, je dirais, un peu luxueux, que ce soit au tout début l'alimentation des satellites, puis des sites isolés. Et ensuite, on est arrivé à faire de la production énergétique dans des conditions économiques tout à fait abordables. Et voilà, nous arrivons aujourd'hui dans la phase de transition où le solaire va devenir une énergie comme les autres, concurrentielle. Et c'est ça, en fait, tout l'enjeu, c'est de trouver les bons moyens de la faire cohabiter avec les autres énergies dans ce fameux bouclier énergétique que nous appelons tous de nos voeux.
On dira ce qu'on voudra quand même, un peu de soleil dans la voie, hein, ça fait du bien aussi. Je ne sais pas si on peut récupérer le soleil des gens pour le transformer en énergie, mais en tout cas, ça nous fait un sacré bien. On va retrouver Daniel Linco, donc le directeur de l'Institut de Recherche et Développement sur l'énergie photovoltaïque, car on a encore des choses à partager et à se dire avec Daniel Linco.
Ces 20 mètres carrés de panneaux sont directement intégrés à la toiture et non pas posés à l'aide d'un support sur le toit. Ses propriétaires ont choisi aujourd'hui de l'équiper de panneaux en silicium monocristallin. Cette technologie la plus aboutie assure les meilleurs rendements. Mais avant même de faire ce choix, le particulier doit vérifier que son bien immobilier est adapté. Le propriétaire a investi 17 000 euros. Cette technique permet de bénéficier des aides les plus élevées à l'installation. Grâce à ces panneaux raccordés au réseau, ce particulier produira de l'électricité rachetée par EDF.
Le panneau de Monsieur Tout-le-Monde, le panneau photovoltaïque, quel est son rendement ?
Alors le rendement aujourd'hui des panneaux photovoltaïques, c'est entre 11 et 20 %. D'accord. Alors ce qu'il faut voir, c'est que les cellules au niveau du laboratoire aujourd'hui, on est capable de faire des cellules qui convertissent autour de plus de 20 %, pratiquement pour le silicium, c'est 25 %. Et finalement, on a le record qui est fait en labo, et à côté, l'industrie monte et tend vers ces records. On a parlé de 25%, c'est déjà bien des rendements à 25%. Bien, il faut savoir que du point de vue théorique, la conversion des photons en électricité pourrait se faire avec des rendements autour de 85%. On a du chemin à faire dans la recherche. Si on prend le cas de l'Allemagne, je dirais que la transition énergétique dont on parle beaucoup en France, elle est déjà en train d'être réalisé en Allemagne.
C'est une question de réseau surtout. C'est-à-dire qu'effectivement qu'ils puissent accepter toutes ces énergies renouvelables et pouvoir les mixer entre elles.
Oui. Alors en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il y a une telle diminution des coûts des matériaux, et simplement en partie pour des effets d'échelle. Vous savez, quand vous avez une technologie, si vous la développez à l'unité, elle est extrêmement chère. Mais quand vous avez le développement industriel, que vous avez à la fois aussi des innovations recherche qui viennent en permanence, vous avez un abaissement des coûts qui est pour le photovoltaïque d'autour de 20% à chaque fois qu'on double la production cumulée. Oui. Donc on est une situation où en quelques années, une électricité qui était très chère au kilowattheure, de l'ordre de 60 centimes d'euros par kilowattheure, est devenue aujourd'hui pratiquement compétitive avec l'électricité qu'on paye sur le réseau, et en particulier en Allemagne. On appelle ça la parité réseau. Et ce qui va se passer dans cette situation, c'est que toute la donne va être modifiée. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez une énergie qui n'est pas chère, et on l'a, l'industrie va s'adapter, le réseau va s'adapter, et on le voit déjà aujourd'hui. On va créer des lignes, il y a des gens qui parlent d'Internet de l'énergie, on va faire du stockage. Et en fait, il va y avoir un effet de domino sur l'ensemble du système énergétique et au-delà, sur l'ensemble du système économique.
Au moment du choc pétrolier, ça a été un coup dur pour le Danemark, parce que notre pays était totalement dépendant des importations de pétrole. Dès lors, nous avons pris conscience que nous devions changer de façon radicale notre système énergétique. Dès le départ, notre objectif était clair. Nous voulions bâtir une société qui s'appuie sur 100% d'énergie renouvelable.
Après les chocs pétroliers, 73, 79, le baril de pétrole ne valait plus rien. Quand je dis ne valait plus rien, il était à 15 dollars. On était dans une situation où les énergies traditionnelles, fossiles, la possibilité pour des questions aussi d'indépendance énergétique, parce que les premiers chocs pétroliers ont posé le problème de l'indépendance énergétique, ont fait que entre le coût du pétrole qui revient très bas et le développement du nucléaire, il n'y avait plus de place quelque part, et en plus qu'on ne l'a pas aidé non plus, mais il n'y avait plus de place pour une énergie qui était encore très chère. Aujourd'hui, on est dans une situation, je dirais, on a une fenêtre d'opportunité extraordinaire dans le domaine des énergies renouvelables. Aujourd'hui, il y a toute la question des énergies fossiles renouvelées. On ne parle plus seulement d'énergies renouvelables, mais comme les prix ont énormes, les coûts d'exploitation énormes, le baril de pétrole, il tourne de 90 dollars, 90, 100. Donc ça ouvre des opportunités pour aller chercher aussi des énergies fossiles qu'on n'aurait pas été chercher il y a quelques années. Donc on est à une sorte de breaking point. Si on tend vers la facilité, on a la possibilité de rater encore les énergies renouvelables. C'est pour ça que mon optimisme général est matiné aujourd'hui du risque et auquel il faut avoir conscience que finalement, si on va chercher les pétroles lourds, les etc., je n'ai rien, je prends pas position sur les débats. Je dis c'est quand même
qu'il faut énormément d'énergie pour sortir un baril de pétrole lourd aujourd'hui, alors qu'il en fallait beaucoup moins avant, mais aujourd'hui
bien
il en faut
sûr,
plus.
Mais avant il fallait que ce soit compétitif à hauteur de 15 dollars. Et maintenant, c'est compétitif autour de 90. Donc ça change la donne. Donc on est dans une situation où le risque existe, où cette transition énergétique vers les énergies renouvelables, finalement, se transforme en une transition énergétique vers les énergies fossiles renouvelées.
Alors il y a une question qui revient assez souvent chez nos auditeurs, c'est celui du recyclage des panneaux. On va dire que la moyenne de vie d'un panneau, c'est 25 ans. Qu'est-ce que j'en fais après? Est-ce que maintenant, donc il y a obligation de toute façon aussi de récupérer ces panneaux, mais qu'est-ce qu'ils deviennent?
Alors ce qu'ils deviennent, en fait, le recyclage est intégré aujourd'hui à l'analyse de cycle de vie.
Et on peut recycler, on va dire, du silicium pour en refaire du silicium.
Ah oui, alors il y a une expérience qui a été faite il n'y a pas longtemps. On a repris des vieux panneaux silicium qui étaient abîmés, enfin qui n'avaient plus, parce que le silicium, il y en a depuis des années. Les balises, on a 30 ans d'expérience sur des cellules silicium. Eh bien, on a repris des anciens panneaux qui ont été démontés. Et alors là, ce qui était spectaculaire, c'est que le cœur, le moteur, c'est-à-dire la cellule silicium, n'avait pratiquement pas bougé de rendement.
C'était le cadre et c'était la colle qui évidemment était extrêmement polluante qui posait problème.
Oui, en fait, c'était de la corrosion. C'est-à-dire qu'il faut prendre sur ces cellules les silicium, il faut prendre des contacts. Et les contacts, c'est comme n'importe quel câble électrique qui est mis au contact d'un air humide, etc. Eh bien, ces contacts se corrodent. Et donc, il était possible de reprendre le cœur des cellules, de les refaire des contacts et qu'ils repartent pour un tour. En fait, on est dans une conception avec le solaire qu'on peut considérer sur 20 ans aujourd'hui, 25 ans, mais je dirais presque pourquoi pas plus ? Et on a une situation où je m'amuse beaucoup. Cette image est intéressante, se dire voilà, je vais te léguer en héritage une maison, je ne sais pas ce qu'on peut léguer, bon, une maison par exemple, et je te lègue aussi une installation de 10 kW photovoltaïque que tu auras encore dans 20 ans. Et au moins, il y a une chose qui est sûre, c'est que l'énergie du soleil ne va pas augmenter en prix. Donc on sait sûr qu'à terme, on va avoir de toute façon un abaissement tendanciel des coûts du photovoltaïque, alors que toutes les énergies qu'il faut creuser, etc., vont augmenter. Voilà.
Daniel Lienco, pourquoi ce n'est pas en fait une industrie comme les autres qu'on développe là ?
Pourquoi ? Parce que en fait, on est dans un enjeu fondamental pour l'humanité. Et vous me donnez l'opportunité aussi d'exprimer ce qui me motive depuis quelques années. C'est en fait de la sensation que ces questions d'énergie, de santé, l'accès à l'eau, etc., les questions de climat, font qu'il y a des domaines dans lesquels il y a de l'économie, mais il y a aussi le bien-être ou l'amélioration, la réponse à des grands problèmes de l'humanité.
Daniel Lienco, ce qui est intéressant aussi avec le solaire, c'est qu'on est dans la décentralisation de l'énergie, alors qu'aujourd'hui, celui qui tient l'énergie tient le pouvoir. Donc là aussi, il y a une révolution qui est en train de se faire.
Alors oui, ce qui est net, c'est que le fait d'avoir des sources d'énergie qui soient distribuées, ça veut dire que l'énergie n'est plus d'un centre vers une périphérie. Et la périphérie elle-même, chaque maison peut être énergétiquement productrice. Chaque façade, chaque toiture est de plus en plus...
Et quand on est producteur, on fait des économies parce qu'on est au plus proche de la source.
Exactement. Et en fait, on est de plus en plus dans une situation où on aura des formes d'autonomie énergétique. Si on prend la ressource solaire, on a la capacité d'avoir des autonomies énergétiques dans pratiquement toutes les régions du monde.
Merci beaucoup, Daniel Lienco. En ce qui concerne donc les panneaux, le recyclage, vous avez maintenant des filières qui se mettent en place, mais il me semble que ça va être un peu plus compliqué de recycler des déchets nucléaires que des panneaux solaires malgré tout. Puis là, donc, l'innovation est aussi sur le coup. Qu'est-ce que nous fêtons ? Eh bien, nous fêtons à la fois les 4,5 milliards d'années du Soleil, donc bon anniversaire à notre étoile chauffante, et puis les 100 ans de Charles Trenet. Et ces deux êtres, évidemment, sont solaires.
Mamselle la plante, la catalane, vivait jadis au fond du square à Perpignan. Quand elle passait sous les platanes, on lui disait, chante la plante, sois pas gnangnan. Et la bonne vieille, sans se faire prier, se mettait alors à crier. Plorante, je suis à tes genoux pour te dire que je t'aime. Implorante, je viens au rendez-vous des chansons, des poèmes. Implorante, je demande pour tout que j'attends dans un bonheur superbe. Car la plante, quand elle tombe au genou, c'est pour dire, c'est pour faire de tout. Voyez comme la vie est curieuse, passant par là certains jours deux impressaries. Écoute la plante mélodieuse, évite langage d'abord à Bâge, puis à Paris. À présent dans les grands musicales, elle hurle, c'est la nouvelle école. Implorante, je suis à tes genoux pour te dire que je t'aime. Délirante, je viens au rendez-vous des chansons, des poèmes. Exigeante, je demande pour tout que j'attends dans un moment suprême. Car la plante, quand elle tombe à genoux, c'est pour dire, c'est pour faire de tout. C'est pour dire, c'est pour faire de tout.
Et oui, du soleil à Perpignan. Peut-être pas aujourd'hui. On a regardé la carte de Météo France. C'est pas forcément gagné, mais de toute façon, André Joff nous en parlera tout à l'heure. On va faire un tour, je vous l'avais dit, en Allemagne avec Vincent Boulanger, qui est journaliste spécialisé énergie renouvelable, éco-construction, qui a écrit un bon article dans ce numéro de mars-avril du Journal des énergies renouvelables, Allemagne, transition ou révolution. Bonjour Vincent Boulanger. Quel temps fait-il du côté de Hambourg?
Ben aujourd'hui, il fait beau. Bonjour. Donc on a sans doute une bonne production photovoltaïque.
Oui, car c'est bien de cela dont il s'agit aujourd'hui. Alors racontez-nous, le solaire en Allemagne, qu'est-ce que cela représente?
Ça représente de plus en plus. Pour donner une idée tout de suite, on peut considérer qu'il y a des journées où la production solaire seule représente la production de 20 centrales nucléaires. C'est un peu différent de ce qui se passe en France. Mmh. Il y a à peu près 8 fois plus de photovoltaïque en Allemagne qu'en France.
Ça représente combien d'installations, on le sait?
Il y a 1,3 million installations solaires en Allemagne. Enfin, ça évolue tous les jours, évidemment, mais le dernier chiffre que j'ai en tête, c'est celui-là.
Ça s'est passé comment, de lander au lander? On imagine bien qu'il y a des configurations différentes.
Oui, schématiquement, le sud de l'Allemagne est un peu plus ensoleillé, donc les plus grandes puissances photovoltaïques sont installées dans le sud. Ceci dit, le prix des installations ayant beaucoup baissé, il se dit de plus en plus que c'est intéressant d'en mettre même au nord de l'Allemagne, et du coup, toute l'Allemagne investit dans le photovoltaïque.
Et quand on dit toute l'Allemagne investit, est-ce que le particulier investit sous forme de coopérative? Comment ça fonctionne? C'est le monde industriel? C'est les collectivités? C'est tout le monde?
C'est tout le monde, c'est les communes, puisque vous savez, il y a un grand mouvement des communes 100% énergie renouvelable. Donc il y a plusieurs dizaines de communes qui sont engagées vers le 100% énergie renouvelable. C'est les coopératives. On compte qu'il y a une coopérative qui s'est créée par semaine en 2012, des coopératives citoyennes qui produisent de l'énergie et qui même maintenant la distribuent puisqu'ils se mettent à prendre possession des réseaux de distribution d'électricité. Et puis voilà, c'est chacun chez soi qui se pose la question de réduire sa facture d'électricité, d'investir avec une installation photovoltaïque.
Alors quelle mentalité différente on a en Allemagne par rapport à l'énergie, où globalement l'électricité va coûter plus cher, mais aussi on consomme moins quand on est allemand?
On consomme moins, on consomme à peu près 26% de moins d'électricité que les Français. Le prix de l'électricité est deux fois plus cher en Allemagne, ce qui fait qu'on a une approche différente. En ce moment, pour le solaire, par exemple, on table beaucoup sur l'autoconsommation qui consiste à installer du solaire pour faire réduire sa facture, voire même en stockant les excédents sur des petites batteries. Il y a maintenant, depuis le 1er mai 2013, le gouvernement subventionne l'achat de batteries à raison de 660 euros par kilowatt installé. On est sur une démarche de réduction de sa facture et puis aussi de contribution à l'effort national de sortie des énergies fossiles et de sortie du nucléaire.
Il n'y a pas qu'en Allemagne. Là, je suis à Los Angeles et je traverse la ville en taxi. Il se trouve que près de la moitié des buildings, des immeubles de bureaux et des bâtiments administratifs ont des façades en verre classique. Pas un seul n'est équipé de façade solaire. Pourtant, si on installait des panneaux photovoltaïques à la place du verre, le résultat serait le même au plan visuel et architectural. De la même manière qu'il est aujourd'hui dans nos cultures, dites de civilisés, interdit de jeter ses déchets dans la rue, il devrait, à notre époque, être interdit de générer des émissions de CO2 liées à la consommation d'énergie.
Alors Vincent Boulanger, donc revenons sur l'Allemagne avec cet esprit commun. Donc il s'est créé autour de ce but d'arriver à cette transition énergétique.
On va dire que la transition énergétique en Allemagne, c'est un peu le projet du siècle. Toutes les couches de la société sont touchées par ce projet et on voit que du politique jusqu'au citoyen, les gens participent. Et c'est pas un vain mot, c'est-à-dire que l'essentiel de la population est engagé dans ce processus.
C'est-à-dire que même sur fond d'élection, ça fait partie d'un consensus social.
Il y a un consensus sur le fond. Après, il y a des discussions sur combien ça coûte, sur qui est-ce qui en profite le plus, etc., etc. Enfin, il y a des débats politiques qui sont vifs, ça on peut pas le nier. Mais sur la direction, la trajectoire de long terme, tout le monde est d'accord.
Alors rappelez-nous ce que représentent aujourd'hui les énergies renouvelables en Allemagne sur l'ensemble énergétique et puis vers quoi on souhaite tendre.
Alors aujourd'hui, on en est près d'un quart de l'électricité fournie par les énergies renouvelables, 23%.
C'est-à-dire aussi bien les éoliennes que le solaire?
Beaucoup les éoliennes solaires, mais aussi le biogaz, ouais. Un peu d'hydroélectricité, mais il y en a beaucoup moins qu'en France. Donc c'est vraiment l'éolien et le solaire qui vont tirer la transition, qui vont assurer l'essentiel de la production d'électricité. Sur la chaleur, on est encore un peu juste. On est à peu près à 12% de chaleur renouvelable. Donc l'effort doit porter maintenant davantage sur la chaleur, parce qu'on voit bien que les énergies renouvelables électriques, elles roulent pratiquement d'elles-mêmes. Si le politique ne se met pas à mettre des obstacles, et il n'y a aucune raison pour qu'ils le fassent, parce qu'elles sont moins chères qu'il y a plusieurs années. Donc elles ont atteint maintenant un seuil de compétitivité qui font qu'elles ont toute leur place dans le paysage allemand.
Et comment se passe cette transition donc avec l'arrêt programmé du nucléaire, qui est évidemment beaucoup moins important que chez nous en France ?
Le nucléaire, c'est presque plus un problème. Il y a eu 8 réacteurs qui ont été arrêtés d'un coup en 2011. Oui. Et malgré ça, on a toujours des excédents et des exportations qui sont en augmentation d'électricité. Le vrai problème pour les Allemands aujourd'hui, c'est de sortir du charbon, parce que ça représente encore 40% de l'électricité allemande. Mmh. Le nucléaire, on va arrêter les centrales petit à petit en 2015, 2017, 2022. Il reste 9 réacteurs en fonctionnement. Mais ensuite, maintenant, de plus en plus de gens se disent qu'il faut envisager une sortie du charbon. Il y a les Verts, notamment, qui sont en lice pour les élections de septembre.
Et ça fait partie de leur programme, ça.
Ils ont décidé de sortir du charbon d'ici 2030. La prochaine étape, c'est le charbon.
La réalité est moins rose. Du lignite à la place du soleil et du vent. Ce charbon est le plus polluant de tous. Les défenseurs de l'environnement critiquent cette absurdité écologique qui ne correspond pas aux objectifs de l'Union européenne.
C'est incompatible avec l'objectif fixé qui est d'atteindre 100% d'énergie renouvelable à l'horizon 2050.
L'Allemagne reste ainsi le premier producteur mondial de lignite.
Vincent Boulanger, ce fameux solaire, on le voit alors sur les toits, sur des grandes surfaces de toits, on voit ça aussi dans des champs ou...
On le voit un peu partout, Fleury. On le voit sur les surfaces commerciales, sur les toits d'entreprise, sur les magasins, les garages automobiles. On le voit au sol aussi, dans le sud de l'Allemagne, on voit des installations gigantesques posées au sol. On le voit un peu partout, puis sur les toits des particuliers, évidemment, puisque c'est là où l'essentiel est posé. Et puis on voit aussi le solaire thermique, c'est ça aussi dont on pourrait parler, c'est que le solaire thermique a aussi son rôle à jouer, parce que sortir des fossiles, c'est bien mais pour la chaleur, mais il faut trouver des substituts. Et dans cette recherche, toutes les énergies sont bienvenues, et le solaire thermique également. Quoi.
Vincent Boulanger, ce photovoltaïque a été largement subventionné ?
Les Allemands se disent qu'ils ont payé cher pour le photovoltaïque, mais on pourrait aussi dire qu'ils l'ont donné au monde, puisqu'ils ont permis de diviser les coûts du photovoltaïque par 4 depuis 2006, c'est ce qui est très négligeable. Ça n'a pas été subventionné au sens propre, puisque c'est tous les consommateurs d'électricité qui ont payé à travers une contribution comme chez nous en France, c'est à peu près le même système. Ce qui veut dire que c'était un choix collectif, et donc ils ont accepté de payer ce prix. Après, maintenant, il y a des secteurs qui trouvent que c'est trop élevé, d'autres non. Enfin, c'est assez polémique, cette question du photovoltaïque. Mais dans l'ensemble, jusqu'ici, ça a fait consensus.
Ça a créé combien d'emplois ? Alors, à la fois les énergies, on va dire, renouvelables dans leur ensemble et peut-être le photovoltaïque en Allemagne ?
Alors, dans leur ensemble, les derniers chiffres dont je dispose sont les chiffres fin 2011. Ça, l'ensemble des énergies renouvelables, ça représente environ 382 000 emplois. Et le photovoltaïque en représentait 100 000.
Quels sont les chiffres du photovoltaïque aujourd'hui, Vincent Boulanger ?
Les chiffres du photovoltaïque, ce sont 33 gigawatts installés en Allemagne.
On va rappeler qu'on en a 4 en France.
C'est-à-dire 8 fois plus qu'en France. Ouais. Ce sont des coûts d'installation qui sont presque 2 fois moindres qu'en France. On ne cherche pas à intégrer les installations dans les toits comme en France, donc l'installation est un peu moins chère. Et puis le marché est beaucoup plus important, donc effectivement, ça permet de réduire les coûts.
Merci à vous, Vincent Boulanger. Vous n'hésitez pas, hein, franceinter.fr, le site CO2 Mon Amour, bah là aussi, vous pouvez converser, laisser des messages, d'accord, pas d'accord. Enfin, sur ces sujets-là, de toute façon, c'est assez polémique. Mais ce qui est intéressant, c'est que même s'il y a de la lignite, comme nous, le gaz va être l'énergie de transition. Pendant très longtemps, ça va être le gaz en France. Et ben, en tout cas, c'est de prendre le chemin et d'aller vers autre chose, et quoi qu'il arrive, de décarboner cette fichue énergie, on va dire fossile.
Le premier qui invente un thermostat pour régler le soleil, je l'embrasse.
Sous le soleil, exactement. Pas à côté, pas n'importe où. Sous le soleil, exactement. Juste en dessous.
CO2 Mon Amour, Denis Chessoux.
Il y a 2 milliards, plus de 2 milliards de personnes aujourd'hui qui n'ont pas accès à une lampe. une lumière chez eux. Et ils n'ont pas été pris en compte par aucune institution et personne n'a réfléchi comment les donner accès à une source d'énergie durable.
Nous changeons encore de lieu, suite du voyage avec la Fondation Énergie pour le Monde qui promeut toutes les énergies renouvelables en fait dans les pays du Sud en fonction des différentes possibilités. L'extension du réseau électrique des villes à la campagne dans les pays du Sud avec des compagnies électriques qui sont souvent exsangues, ça ne marche pas, c'est quasiment impossible aujourd'hui. Aucun acteur est prêt à s'investir pour l'accès à l'électricité. Qu'est-ce qui reste? Alors les groupes électrogènes, technologie qu'on connaît depuis des dizaines d'années, ça veut dire du pétrole, ça veut dire aussi les prix à la hausse, ça veut dire un changement tous les 3 à 5 ans d'un groupe électrogène avec des charges qui sont extrêmement élevées. Alors on va parler avec vous Yves Meng de du travail que vous effectuez avec la fondation donc Énergie pour le Monde parce que vous êtes directeur de cette fondation. Vous êtes aussi membre de l'Académie de technologie. Où ça se développe, on va dire, le photovoltaïque dans ces pays du Sud?
Alors ça se développe partout. Lorsque, en Guinée par exemple, vous avez 3% de la population rurale qui a accès à l'électricité, on voit le champ énorme que ça représente. Et si on ne sait pas changer d'échelle dans les programmes d'accès à l'électricité, compte tenu de la démographie, eh bien, ça va se rétrécissant au lieu d'aller en augmentant. Donc il faut absolument qu'au-delà des contingences de terrain qu'il faut prendre en compte, eh bien, nous sachions sensibiliser les bailleurs de fonds, sensibiliser des investisseurs sociaux pour changer d'échelle. C'est absolument fondamental.
Alors racontez-nous ce que vous avez vu à Madagascar.
Alors, il n'y a pas très longtemps, j'ai eu l'occasion d'aller avec des personnes du Crédit Coopératif et un donateur sur le terrain au sud de Madagascar. Nous avons électrifié 2 localités et nous sommes sur un programme pour en électrifier une dizaine de plus. Qu'est-ce que l'on voit? C'est que l'accès à l'électricité suscite effectivement dans les 2 localités que j'ai pu voir un démarrage d'un développement tant social qu'économique. Un exemple, amener l'énergie électrique par des éoliennes, tel est le cas sur la localité d'Amboundre, eh bien ça permet à des personnes, à des femmes particulièrement, qui en fin de journée, avant la tombée de la nuit, faisaient un peu de couture, eh bien de multiplier par 2 à minima le temps qu'elles vont passer pour faire une activité économique. Et l'on voit qu'au niveau des ressources financières que cela procure, c'est d'une efficacité excessivement importante. Autre cas, toujours à Madagascar. Une localité qui s'appelle Analapaz, qui est en bordure de mer, qui aujourd'hui est électrifiée par des panneaux solaires, permet, par l'arrivée concomitante de la téléphonie mobile et du réseau Internet, à une personne de créer un cybercafé et par là même de permettre à la population, mais aussi aux populations des localités avoisinantes, de venir là pour un service de photocopie, de prise de photo d'identité, d'envoi d'informations. Ça leur permet de venir à ce lieu-là, cybercafé, à quelques kilomètres de leur domicile, plutôt que de passer une journée entière à aller au chef-lieu local, avec toute la déperdition en temps que cela représente. Mais c'est aussi au niveau des usages sociaux, un professeur qui a une télévision, qui a un lecteur de DVD, et qui invite ses élèves à venir voir des émissions à titre éducatif.
Si nous partons au Sénégal, qu'avez-vous observé, Yves Meng?
Au Sénégal, depuis maintenant une bonne vingtaine d'années, nous travaillons en Casamance, et le photovoltaïque, c'est aussi l'accès à l'eau. Et l'accès à l'eau, vous le savez, c'est forcément des périmètres maraîchers ou d'autres types de cultures, et donc c'est là aussi une génération de revenus. En Casamance, des groupements féminins qui disposent d'un périmètre maraîcher cultivent en contre-saison, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a pas d'eau, pendant la saison sèche, des tomates par exemple, des oignons, des poivrons, qu'elles vendent sur le marché de Casamance. Et donc c'est une rentrée d'argent frais que jusqu'à maintenant, elles n'ont pas. Donc on voit bien que ça permet des cultures de contre-saison qui jusqu'à maintenant n'étaient pas possibles.
On sait qu'il y a un rapport absolument direct entre l'éducation des jeunes filles et l'arrivée de l'électricité dans les villages.
Écoutez, ce que l'on peut voir, c'est de voir la corrélation entre résultats scolaires et arrivée d'un éclairage de qualité. Ce sont des lampadaires solaires sous lesquels des enfants étudient. Mais c'est aussi, pour d'autres, eh bien, un éclairage de bonne qualité. Aujourd'hui, on passe avec les LED parce que ça consomme moins d'électricité. Eh bien, plusieurs élèves de plusieurs familles qui viennent travailler là et les profs sont clairs. Il y a une nette amélioration des résultats scolaires.
Merci Yves Meigne, Énergie pour le Monde. Pour faire une petite transition, Marie Bonavent nous a écrit en disant « J'interromps ma cuisine pour vous préciser qu'il fait beau à Perpignan, le ciel est bleu, le soleil brille ». C'est à croire que Météo France est un outil de propagande pour consoler la France du Nord. Bon week-end à tous. Voilà. Et André Joffre, vous allez me confirmer qu'il fait beau. Bonjour André Joffre.
Bonjour, bonjour Denis. Oui, il fait très beau. Effectivement, j'étais sur un site là, que nous télécontrôlons, ouais. qu'on a visité ensemble, et je vois qu'on a 90% de la puissance maximale. Donc on est pas mal. Quoi. Ouais.
Donc sur le toit du marché international, hein, du marché.
C'est ça, voilà. Ouais,
d'accord.
C'est
ouais, qui est recouvert donc, de panneaux solaires. Alors je rappelle que vous êtes le président du pôle de compétitivité d'Herbie, que vous êtes aussi vice-président de Enerplan, l'association professionnelle de l'énergie solaire. On va parler maintenant quand même du particulier, c'est-à-dire les gens sont un peu paumés, il faut quand même le dire, aujourd'hui entre on a eu des ordres, des contre-ordres, etc. et tout, on a une politique extrêmement brouillonne qui a fait perdre en plus 15 000 emplois me semble-t-il il n'y a pas tellement longtemps. Donc où en est-on et qu'est-ce que je peux faire moi en tant que particulier si j'ai une maison, si j'ai un toit?
Absolument. Alors bon, comme l'a dit Daniel Linco tout à l'heure, les prix des installations solaires a beaucoup diminué depuis des années. Aujourd'hui, pour être simple, si l'on veut installer 3 kW sur son toit, alors 3 kW, ça permet de produire dans l'année autant d'électricité que l'on consomme hors chauffage.
Hein. D'accord.
Et si on veut prendre en compte le chauffage, il faut installer 9 kW, c'est-à-dire 3 fois plus. Bon. Ça, 3 kW, ça coûte à peu près 10 000 euros actuellement.
On a des aides? Comment ça se passe?
On a des aides. Il y a un crédit d'impôt qui existe toujours. Alors,
qui est limité hein, maintenant.
Voilà, c'est ouais. Autour de 1 000 euros à peu près. Donc ça veut dire qu'on a une installation qui va coûter autour de 8-9 000 euros à peu près, net, des fois déduit de le crédit d'impôt. Et ça produit de l'électricité qui est vendue à EDF au tarif de 30 centimes d'euros le kilowattheure, ce qui génère, alors dans le midi, on amortit son installation en 7 ans à peu près, et si on est de la région parisienne, par exemple, on va l'amortir en 9 ans.
L'avenir quand même, André Joffre, c'est quand même de consommer sur place, c'est pas forcément de produire pour vendre à EDF.
Voilà, absolument. La grande idée aujourd'hui, c'est de se rendre compte qu'à un moment donné, on a tout intérêt de produire l'électricité avec son propre toit et de la consommer sur place. Alors, on peut la consommer directement parce qu'on a toujours des équipements qui sont en fonctionnement, mais demain, on va utiliser des batteries. On va utiliser des batteries pour stocker cette énergie, puis la restituer au réseau pendant les heures de pointe. Et ce que présentait tout à l'heure Daniel Linco sur l'Internet de l'énergie, c'est-à-dire en fait la convergence entre les technologies de l'information et les énergies renouvelables, vont constituer véritablement une source d'innovation considérable.
Alors je reviens avec vous dans quelques instants. On a beaucoup parlé du photovoltaïque. Maintenant on va parler du solaire thermique avec ce petit reportage signé Stéphane Combe qui est allé chez quelqu'un qui habite du côté d'Argenton-sur-Creuse, qui s'appelle Michel Vivret. Car ça, c'est l'autre domaine, comment chauffer son eau grâce au solaire.
Voilà, la glycine, ça sent bon. Hein.
C'est sympathique.
Alors Michel, où sont vos panneaux solaires? Parce que je sais que vous avez des panneaux solaires.
Mais les panneaux solaires, ils sont juste là. Donc ils sont intégrés sur la maison et orientés presque au sud. La surface des deux panneaux est 5 mètres carrés. Pourquoi 5 mètres carrés? Puisqu'on attribue pour un panneau solaire thermique, c'est-à-dire la production d'eau chaude, 1 mètre carré par utilisateur. Alors sachant que nous, on est une famille entre 4 et 6, suivant les cas, on se retrouve que 5 mètres carrés, qui est exactement la surface correspondant à une moyenne d'utilisateurs de la famille.
Donc en fait, ces panneaux solaires là, qui sont sur le toit, dedans, il y a un système de tuyauterie, en fin de compte, qui
voilà, y a un mini
en serpentin.
Un mini serpentin qui va prendre le maximum de surface, de façon à capter le plus possible d'énergie, pour la restituer via un serpentin au ballon d'eau chaude.
On peut aller voir le ballon d'eau chaude?
Bien sûr, il va.
Alors là, oui, en effet, on a un énorme ballon qui fait quoi? Environ 1,70 m, là.
Voilà, qui va faire 1,70 m, mais surtout qui a une capacité de 300 litres.
Au-dessus du ballon, donc, une espèce d'appareil avec un écran qui doit, en quelque sorte, j'imagine, gérer l'installation solaire qui est sur le toit. Hein. Et on voit un cadran avec 44,2 degrés. Qu'est-ce que c'est?
C'est surprenant, mais c'est la température actuelle des capteurs. Ça veut dire que même sous ciel couvert, les calories récupérées via les capteurs représentent 44 degrés de température mise à disposition gratuitement, par temps couvert. C'est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre de la même année, on va dire que 75% de nos besoins d'eau chaude sont générés par le soleil.
Alors quel est le coût d'une installation comme celle-ci?
Aujourd'hui, faut entre, je dirais, 5 et 6 000 euros. Ces systèmes sont subventionnés encore par le biais de crédit d'impôt qui s'élève à 32%. Mais on a un coût de final entre 2 500 et, disons, 3 000 euros.
Et Michel, regardez, il y a un peu de soleil là qui apparaît à travers la couche nuageuse. On va voir si la température
du ballon d'eau chaude augmenté.
On a beaucoup d'inertie, hein, donc 3-4 degrés depuis tout à l'heure.
On est passé à 47 degrés, alors qu'au début de notre entretien, on était à 44 degrés.
Voilà.
Ben voilà. Et donc ça fonctionne bien. André Jove, je reviens vers vous. Il y a eu à la fois, on le sait, des effets d'aubaine, parce qu'on a racheté beaucoup trop cher le prix du kilowattheure électrique. Il y a aussi ce qu'on va appeler très gentiment des éco-délinquants. Autrement dit, quand même, des gens qui en ont profité, mais à fond. On a vu des marges brutes de 33 à 50% chez nous en France, alors qu'elles sont beaucoup plus modestes en Allemagne. C'était pas illégal, mais je veux dire que on va rappeler que, en gros, lorsque vous achetez une installation, le prix du panneau photovoltaïque est à peu près du 1/5. Alors, comment tomber sur des gens qui sont honnêtes? Parce que toute la profession n'est pas malhonnête, hein, je vous rassure.
Oui, et ça continue. Donc, il faut être très prudent dans tous ces métiers nouveaux. En fait, il y a toujours des opportunistes, on va dire, qui essaient de profiter de la méconnaissance du public pour essayer de vendre des choses à des prix qui ne sont pas, et surtout des choses qui ne fonctionnent pas bien. Alors il y a plusieurs choses très simples, des précautions à prendre. Tout d'abord, s'adresser à un installateur que l'on connaît. Alors il y a des sites internet pour prendre un installateur qualifié, c'est calisol.org ou calipv.org. Ce sont deux sites qui permettent d'avoir le nom des installations, des installateurs qui sont qualifiés. Ensuite, il faut demander à l'installateur des noms d'installations qu'il a déjà réalisées. Voilà. Et les gens sont ravis, en général, de faire visiter leur installation.
Alors,
ça, c'est la bonne chose. Et ensuite, se rapprocher des espaces info-énergie. Il y en a dans tous les départements. Ça a été monté par l'ADEME et les collectivités locales. Et là aussi, on retrouve leur adresse sur infoénergie.org.
Merci beaucoup, André Joffre. On a d'autres sujets qu'on abordera une autre fois sur le monde industriel, etc. Mais en tout cas, merci à vous pour ce petit point. À Stéphane Combe, à Christophe Imbert qui réalisait l'émission, à Albert Roux, à Jean-Baptiste Audibert, à Anne Gouzon qui nourrit les sites. Je vous retrouve, l'Atu du Mon Petit Loup, ce sera demain 19h55. Vivre avec les bêtes, ce sera aussi demain à 15h. Et nous continuons.